Nous allons conclure cette toute première partie qui était celle du travail élémentaire, parce qu'il y a une autre partie qui nous attend, c'est celle du travail notamment avec le collège Henri Dunant, et puis revenir un petit peu sur le travail qui a été abordé avec d'autres. Je vous propose que nous fassions une pause musicale. Laetitia, c'est vous qui avez choisi les pauses musicales. Vous nous aviez proposé Albin de la Simone ou IBI. Lequel voulez-vous qu'on envoie pour le moment ?
Albin de la Simone.
Eh bien, très bien. On s'écoute Albin de la Simone. Merci pour ce choix. Et puis, nous revenons juste après.
Elle aime les films hongrois, sous-titrés en tchèque. Bach, Repac, Bartok et l'opéra chinois. Les culottes en velours, les vapeurs de gasoil, le civet de bulot et les œufs de 100 jours. Et c'est moi qu'elle est. Les orchestres de bal,
le kiwi au maroil,
les mélopées pépères
et les films des bagels.
Et c'est moi qu'elle aime. Elle aime le cri des poux et le lait faisandé, les tipis et les gnous, le chlore et la mélasse. Elle chérit un hibou, elle dépèce des taupes, vénère des papous et les kangourous myopes. Et c'est moi.
Je ne me sens pas nue, ni kangourou pépère,
ni papou, ni bulot, ni bébé en maroilles. Absolument jamais check, hibou, ni tchik-tchik.
Voilà, nous sommes toujours en direct du Tangram avec plein de monde avec nous. Les artistes ayant participé, accompagné ce projet, Laetitia Adjanoun et puis Pierre Lamandé, ainsi que Joseph Baudet. On a écouté les trois légendes qui ont été réalisées par les écoles primaires de Netreville. Nous vous disions tout à l'heure qu'il y avait aussi les collégiens qui avaient participé, et on va écouter en deuxième partie d'émission les collégiens. Juste avant, Caro, c'est vous qui avez suivi ce projet donc du Tangram, qui avez suivi ce projet sur Henri Dunant. En quelques mots, à quoi ressemblait ce projet à Henri Dunant ?
Alors c'était un projet un peu atypique par rapport aux autres projets de l'établissement parce que c'était un projet transversal. Le choix a été fait en fait de prendre 4 volontaires par classe sur tout le niveau 5e et tout le niveau 4e. Et on a vu en fait les élèves en 4 séances à chaque fois pour les séances d'écriture.
Mais ça a été très rapide, beaucoup plus rapide qu'avec les plus jeunes. Donc,
C'est pas le même travail qui a été mis en place entre les collégiens et les écoles primaires, c'était différent.
Oui, puis il était basé sur le bénévolat, donc ça aussi c'était quelque chose d'important.
Le volontariat, oui, sur lequel les jeunes n'étaient pas obligés, quoi. Ils s'inscrivaient s'ils le souhaitaient.
Les jeunes n'étaient pas obligés et il n'y avait pas de professeur référent. C'était vraiment un projet qui traversait l'établissement comme ça. Voilà.
Bon, on va en écouter quelques textes. Mais oui, Laetitia.
On va d'abord en écouter un.
Ce que je voulais, parce que en fait, juste avant, il y avait cette transition. On se disait parce que voilà, les artistes ont accompagné, les groupes. On a entendu les scolaires tout à l'heure, les collégiens là qu'on va entendre dans un instant. Mais on se faisait la réflexion en préparant cette émission. Mais oui, les artistes ont accompagné, mais les artistes n'en sont pas moins artistes aussi et proposent des choses. Vous, Laetitia, vous êtes autrice, vous êtes metteuse en scène. Pierre, qui est comédien, dramaturge. Joseph, vous êtes musicien également. Et on s'était dit qu'il pouvait être intéressant durant cette émission que vous-même, vous puissiez faire votre texte. Et je trouve que c'est un beau retour, notamment vis-à-vis des enfants ou des collégiens qui ont travaillé avec vous, de pouvoir entendre le travail aussi des artistes qui les ont accompagnés. C'est ce que nous étions dit en préparation de cette émission. Et donc, je vous propose que, pas tout de suite d'un seul coup tout le monde, mais peut-être que nous commencions par un texte que Pierre
va lire. Et que j'ai écrit.
Laetitia, c'est vous qui l'avez écrit.
C'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 2010, donc il y a un certain temps, qui s'appelle La Noyée. Et Pierre va lire la première lettre. Voilà.
C'est doux, 17 ans et demi. Je suis l'étranger. Toujours je suis celui-là. Je suis d'à côté, jamais d'ici. Je vous dis ça peut-être abruptement, mais je vous le dis d'entrée parce que ça a son importance. J'ai appris ce mot-là il y a quelques jours, abruptement. Le type qui a inventé ce mot, il devait être musicien, genre tapeur de conga, parce que ça cogne drôlement juste, je trouve. Abruptement. Le rythme colle bien à la signification. Abruptement. Paf, paf, paf. Tu sens là, soudain, le violent, ça en balance. Je connais pas encore assez de mots. Enfin, en français, je veux dire. Je suis pas un de ces gars qui ont du vocabulaire plein les poches. Quoi que ça commence. Disons que c'est pas la disette, mais ça reste maigre. Ben voilà, par exemple, la disette. C'est un mot que j'ai appris il y a pas longtemps, et pourtant je suis en plein dedans depuis le commencement. Les mots, ça t'allège l'intérieur. Te dire qu'il y a quelqu'un qui a créé un terme pour nommer ton bordel, ça soulage. Moi, je me soigne au français. Parce que ma langue à moi, la maternelle, je veux dire, elle permet pas le voyage. Et moi, ce qui me bloque les vertèbres, c'est les racines. Il me faut des ailes. Le français, c'est mes ailes. Je ne renie pas d'où je viens, mais d'où je viens, c'est à peu près nulle part. Un nulle part attachant, mais un nulle part quand même. Ça m'a convenu un temps de venir de nulle part. Et puis, mon père est mort et je me suis senti à l'étroit. Mon père, c'était un ailé. Il faisait pas de grande distance, mais il voyait assez de paysages pour pouvoir nous en compter. Il revenait après quelques mois de vagabondage, il tentait de faire un bébé à maman, ça marchait rarement. Ensuite, il s'asseyait dans la cour avec un bol de dolo. Il versait quelques gouttes sur le sol pour les ancêtres. Il avalait une ou deux gorgées, de quoi se huiler les vocales, comme il disait, et c'était parti. La séance commençait. T'avais tout. Les odeurs, les couleurs, les bruits. Mon père, c'était notre cinoche. Une heure et demie d'évasion. C'est toujours la même trame. Qu'importe les lieux, qu'importe les personnages, ça commençait toujours propre, sage, l'image bien dans le cadre, et puis au fur et à mesure, ça prenait la tangente pour finir complètement à la renverse. Et nous, le public, on se marrait doublement parce que, de un, on savait qu'il était sous l'effet du dolo, et que, de deux, on connaissait la suite. Dans trois lampées, il allait se lever, nous insulter avec des mots inconnus en russe, avant de jeter son bol sur le mur. On adorait ça, les éclats du père, surtout quand ils étaient en russe. Ces injures-là, il les connaissait de son patron, un homme bien rangé qui avait fait un séjour à Moscou. Mon père était chauffeur. Son patron, il l'injuriait de temps en temps, mais il était vachement généreux. À chaque fois qu'il repartait pour le village, il lui donnait trois sacs. Un sac de riz, un sac avec un cadeau pour maman et un sac avec des livres en plus de l'argent. Avec mon père, j'avais donc le cinoche et les bouquins. Quelques plumes. Et puis, paf, 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 il est mort. Un accident de la route et plus rien. Plus de sous pour aller à l'école. 13 ans, fallait aller bosser au champ. Alors j'ai relu les 9 livres jusqu'à en expérimenter chaque virgule. Et puis j'ai eu 16 ans. Il y a de cela un an et demi et je suis parti. Je commençais à aller de travers ces saloperies de racines. Alors j'ai pris le chemin de la capitale. Un oncle m'a engagé comme apprenti dans son garage pour deux roues et j'ai acheté un dictionnaire. Et depuis, chaque jour, j'apprends 4 ou 5 mots, comme ça, à la volée. Après, je les couche sur le papier, je les scanne dans ma caboche. Voilà le début de l'histoire.
Pierre Lamandé sur un texte de Laetitia Ajnoun. On s'était dit que c'était important aussi de partager, les élèves ont partagé avec nous leur production. On s'était dit que c'était intéressant aussi, dans l'autre sens, de partager avec ses élèves. Sur ça fait toujours bizarre de sortir d'un texte pour revenir dans un autre rythme. C'est assez terrible et c'est là où on se rend compte aussi du travail des élèves pour mettre un rythme, parce qu'en fait une histoire c'est un rythme, oui. C'est aussi une chanson de l'histoire. On l'a bien vu à travers le travail des primaires, des écoles élémentaires que nous avons écouté tout à l'heure. Oui, mais les raccourcis de langage, hein. Le début de notre perte. on a bien ressenti cette histoire de rythme, parce qu'une histoire, c'est aussi du rythme. Donc voilà, tant pis, je mets les deux pieds dedans, je casse le rythme et je reprends le déroulé d'une émission. Et je vous propose que nous écoutions un texte, le premier texte des collégiens que nous avons choisi, c'est Le Bunker aussi. Et alors, oui. C'est pas le même bunker.
Eh bien, si.
Si, c'est le même bunker.
Même puisqu'on est à Netreville, et je pense qu'il n'y en a pas plusieurs. Mais c'est un lieu qui donne beaucoup d'imaginaire, j'imagine.
D'accord. Et bien, on s'écoute ce bunker des collégiens.
Bunker de Erwan, Lucas, Wassim et Wilkinson.
Dans un bus scolaire blindé avec aucune place assise de libre, la plupart des personnes dans ce bus sont des seniors. Le bus est bleu et noir. Quand soudain, un garçon arrive en courant et tombe dans le bus à côté des seuls amis de ce bus. Il se relève et éclate de rire.
Et il est fou, lui.
Mais pourquoi il rigole?
Ça va?
Hamdoulilah.
Ça veut dire quoi, Hamdoulilah?
En fait, ça veut dire grâce à Dieu, je vais bien.
Ah bah tant mieux.
Et les mecs, je peux traîner avec vous?
Ok, si tu veux.
C'est quoi votre blaze?
C'est Landry, vieux.
Ah ok, cool.
Moi c'est DJ.
Moi c'est Emric et toi c'est quoi ton blaze?
Walid.deter. Tu valides?
C'est bon.
Et vous là, j'ai un dossier. Voilà, c'est trop chaud. Hier je suis sorti de spi et ma voisine, la mamie, m'a balancé que le bunker qui est dans la forêt est grave chelou.
Oh ouais. Arrête de mentir. Bah si c'est vrai, la tête de ma mère. T'as déjà t'aimé à la forêt? Elle est tellement dense. Quelqu'un m'a lâché que quand on s'approche de la forêt, on entend des gens crier et rire. Le quelqu'un en question, il m'a dit qu'un zarbi rôde dans la forêt pour attraper des promeneurs de chiens et les torturer. Il leur découpe le ventre et il sort leur boyau.
Starfly.
Ça veut dire quoi?
Oh mon dieu.
Mais vous êtes mytho.
Wesh, laisse-moi continuer, non? Le bunker est barricadé avec des rubans de police et des panneaux interdits d'accès. Mais un certain Joe Garner, youtubeur, a réussi à rentrer avec une GoPro et a filmé en live l'intérieur.
Il est chaud?
L'intérieur est totalement vide. Et pourtant, on y entend des sons, des grincements, des bruits de pas et des hurlements de moutons égorgés.
Ah ouais.
Au début, on croyait que c'était un fake. Mais ma vieille voisine m'a dit que c'était son fils et qu'il avait disparu. Et maintenant, l'affaire est classée sans suite.
On a qu'à y aller?
Non, je suis pas trop sûr.
Moi, je suis chaud.
Vas-y, on y va. On ne risque rien.
On raconte aussi qu'un agent de la SPA, rentrant un peu tard de son boulot à pied en prenant un raccourci, est passé devant le bunker. C'est ce qu'on dit. Et là, il a vu une femme pâle, avec des pattes d'araignée, lisse comme une épée, et qui lui sortent du dos.
Oh ouais.
L'agent a tracé à travers le bois en hurlant.
Miskin pour lui.
Oh, c'est du charabia tout ça.
Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont tellement naïfs qu'on pourrait leur faire croire à n'importe quoi.
Ouais, du genre que Donald Trump est musulman.
Ou bien que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu lieu.
Arrête de rire. Tu vas perdre ton dentier.
Apprends à marcher sans cale, et puis tu pourras me parler.
Là, un vieux musclé envoie une pichenette à Landry, qui s'énerve, pendant que ses compagnons chantent.
Cher, cher, triple cher.
Voilà, le bunker, premier extrait du trail du collège. On sent que les thématiques sont pas les mêmes quand même là. Hein. Enfin, la façon de parler, les préoccupations, le langage, on est proche d'une réalité très réelle. Damien, à la réalisation, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende tous.
Évidemment, ils ont un autre langage ce groupe-là a vraiment voulu être proche du parler, en tout cas de leur parler, et donc ils écrivent comme ils parlent, en tout cas ce groupe-là. Et vous allez en entendre 8, et il y a 9 en tout, et ils sont chacun différents, il y en a des plus courts, des plus longs. Donc le travail a été fait de manière un peu plus artisanale, c'est-à-dire qu'ils ont écrit, et un autre groupe a lu, mais certains ont écrit et lu. Donc, parce qu'on avait très peu de temps, mais ils ont été jusqu'au bout de la proposition. Voilà.
Je vous propose qu'on aille un petit peu plus vite, parce que du coup, là, on a plein d'extraits à diffuser, oui. 9, hein, comme oui. On le disait. Il y en a 2 qui vont ensemble, alors c'est quoi? C'est des groupes qui se répondent ou pas?
C'est parce qu'ils sont... Non, pas toujours, c'est parce que parfois, ils sont très très courts, et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être... Ils pourraient...
Qu'ils allaient se marier.
Être, voilà, couplés.
Eh bien, nous allons marier, du coup, les cafards et la maison brûlée et la SPA.
Voilà.
Les cafards et la maison brûlée de Jérémia, Grégory, Hugo, Nourdine et Ibrahim.
Dans mon quartier,
il y a une maison que tout le monde redoute.
On raconte qu'elle renferme 1 million de cafards.
Il y a 50 ans, dit-on, un homme habitait cette maison. À plusieurs occasions, il a tenté d'éliminer les cafards.
Mais le produit chimique qu'il a utilisé les a fait muter.
Et le pauvre homme ne s'en est pas aperçu. Aujourd'hui,
quand les habitants de Netreville passent à côté de cette maison en ruine, ils s'en dégagent une odeur de pourri. Et les hommes ressentent des frissons et ont les poils qui se dressent. Ces réactions sont provoquées par des vibrations visqueuses émises par les milliers de pattes de cafards qui grouillent sur et sous le sol.
On raconte aussi que l'homme de cette fameuse maison est mort brûlé en essayant de les éliminer. Il aurait répandu de l'essence partout sur les cafards et ces derniers l'auraient attaqué au moment où il craquait une allumette. L'habitation s'est enflammée, les cafards ont résisté au feu, mais pas l'homme.
Depuis tout ce temps,
la végétation n'a jamais repoussé.
La maison était ventrée,
calcinée et ses vitres sont cassées.
Les cafards se sont cachés sous la terre, mais ils se nourriraient encore de toutes les personnes qui essaieraient de pénétrer dans les décombres.
La SPA de Mathieu.
En 1953, un bâtiment installé à côté du bois Boy, dont personne ne connaît le constructeur initial, était rempli d'horribles chats, de vrais crapules. On dit que ces derniers ont été éjectés de cet endroit par un groupe d'habitants et ont dû très vite trouver un abri. Les chats sauvages ont décidé de faire de la forêt leur territoire. Ils se sont adaptés aux lois de la nature. Dès que quelqu'un entrait dans ce lieu, il en ressortait gravement blessé. Même les grands groupes de chasseurs en ressortaient rarement indemnes. Lorsque la légende fut répandue, plus personne n'osait s'approcher de cet endroit. Les chats commençaient à s'ennuyer, car ce qu'ils aimaient, c'était d'attaquer des humains. L'un d'eux, qui était blanc nuage, eut une idée. détruire leur lieu d'origine, le bâtiment à côté du bois. Une nuit donc, une bande de chats saccagea cet endroit à l'orée du bois. Quelques jours plus tard, un vétérinaire qui passait à côté de ce bâtiment en ruine eut l'idée de le restaurer et d'en faire un lieu d'accueil pour les animaux abandonnés. Une S.P.A.
Voilà, une réécriture aussi de l'histoire à l'occasion. Sur ce travail de collégien, on sent qu'il y a l'envie de rire quand même, peut-être qu'il est plus prononcé que ce qu'on écoutait dans les légendes des élèves d'élémentaire. Là, on sent qu'on a envie de rire quand même avec les choses. C'est ce qui a alimenté aussi leur travail, l'envie de s'amuser.
Je pense qu'ils ont eu envie de s'amuser, surtout quand ils ont pris en charge les textes. Ils avaient vraiment envie de rire et de jouer des personnages et de jouer avec des accents, avec des matières sonores, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de mettre en son et de vraiment travailler le jeu. Donc ils se sont dit, on y va, quoi. Et voilà, ils faisaient des propositions et puis on essayait de... J'essayais de les accompagner dans ces propositions-là. Et puis dans les écritures, ça dépendait des groupes. Il y avait des groupes qui étaient hyper hilarants et qui riaient pendant toute l'écriture, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus concentrés. Voilà, il y en a qui ont travaillé collectivement, il y en a qui ont... La SPA, par exemple, ça a été écrit par une seule personne. Donc selon leur caractère, c'était beaucoup plus libre, beaucoup moins dirigé. Ils n'étaient pas obligés d'être dans du collectif, en tout cas dans le collège.
Vous nous disiez, il y en a qui ont travaillé en rigolant, d'autres plus sérieusement. On travaille mieux quand on rigole ou on travaille moins bien ?
Ça dépend ce qu'on écrit.
Finalement, on travaille tout autant.
Ça dépend ce qu'on cherche. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, si j'écris quelque chose de drôle, j'espère que ça me fait rire, quoi. Enfin,
c'est peut-être un petit peu mieux.
Ça peut être mieux, oui.
Je vous propose qu'on écoute un autre texte, La Chose.
La Chose de Elena, Gwenaël, Ilona, Madeleine, Naïma, Lorenzo et Isabelle.
Je répète.
Oui, une chose.
Reprend-il ?
Cette chose est un ancien scientifique irradié devenu fou.
On raconte qu'il a absorbé un produit chimique qui l'a détruit physiquement.
Son corps est mutilé, brûlé.
Des morceaux de verre sont plantés dans sa peau.
Il a une très très grande langue. Il frappe avec une massette blanche maculée de sang et de cendre. Des points de suture sont visibles sur son œil droit, qui est rose.
Je prends mon courage à deux mains. Et malgré ma peur, je me pénètre dans l'usine. J'ai la boule au ventre. J'entends fuiner une souris. Le silence est de mort. J'avance de 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. À cause d'une chute de pierre, je me colle au mur fait de tôle. J'entends.
J'aperçois au loin un grognement. Des pas. Je vais m'enfuir. La porte de l'usine se referme. Des fioles tombent au sol. Ah !
La chose est devant moi.
Elle est horrible.
Sa bouche est agrandie par deux coupures profondes qui continuent jusqu'aux joues.
La sueur me recouvre.
Mon œil s'arrête sur un couteau rouillé au sol. Je l'attrape et je le plante dans sa jambe. La chose hurle.
En partant me cacher, je tombe sur une photo.
Oh non, mais ce n'est pas possible.
Cette chose serait en fait...
Je fonds en larmes.
Mes pleurs sonores indiquent à la chose où je me trouve.
La voilà de nouveau en face de moi.
J'aperçois son ombre sur le sol.
Mon cœur bat la chamade. Je relève la tête. La chose est en fait.
Ta-da-da.
Mon père.
Je vois une lueur de souffrance dans ses yeux.
La chose, là, alors là, il y a tout quand même, parce qu'on expliquait que ce projet collégien, en fait, n'avait pas bénéficié d'une mise en voix et d'une mise en son, mais finalement, ils s'en sont emparés de cette notion de mise en voix et mise en son. Ça chuchote, ça fait en cœur, il y a les respirations, on sent qu'il y a eu une réelle intention dans les voix. Et puis, ils fabriquent leur bruitage. Hein. Ouais. C'est, j'imagine.
C'est beaucoup plus artisanal, je pense.
Ah bah oui, bien sûr.
Et puis tout doit se faire à la fois, alors qu'il y a pas eu, il y a eu un montage, un petit montage, mais qui a été fait rapidement. Et donc voilà, c'était vraiment. Mais c'était très. C'est pour ça que c'était très amusant.
Mais j'imagine, là je me retourne vers Pierre et Joseph, là il y avait quand même les bases de ce qu'on pourrait appeler une mise en voix, enfin il y a eu une vraie intention, il y a des nuances, il y a des choses, pareil pour le bruitage, alors le bruitage est plus léger, mais on sent qu'il y a, il y a une réelle intention là.
Bien sûr, ben, super, moi je les découvre là pour le coup ces textes-là. D'abord deux choses, je pense qu'ils sont moins nombreux, donc c'est pas pareil non plus, parce que là, un des enjeux des classes élémentaires qu'on a entendu tout à l'heure, c'était qu'ils étaient une vingtaine à chaque fois et que ça s'organise aussi un peu différemment. Donc c'est vrai que sur des petites formes comme ça, je pense qu'en tout cas, ils s'en sont saisis. Et puis rappeler que Laetitia est autrice, mais elle est aussi metteuse en scène et comédienne. Et je pense qu'en tout cas, il y a eu un dialogue aussi à cet endroit-là. Donc c'est aussi, évidemment, il y a plein de façons de s'en saisir et ils s'en sont très, très bien saisis. Donc bravo à elle et eux.
Ouais, et puis les bruitages, Joseph, là, bruitages, là,
très bien. Et ça donne, moi, je découvre aussi les textes et du coup, tout de suite, ça donne plein d'idées. Et je pense que j'aurais eu ma malle à instrument, il y aurait eu plein d'idées là.
J'imagine. Je vous propose que nous poursuivions. Ouais, je compresse un petit peu, mais c'est des courts textes. Et puis, on va tous les diffuser en fait, tout simplement. Oui, hein, donc, oui. Et comme il y en a un certain nombre, on va accélérer un petit peu le pas. Il y en a deux qu'on va envoyer, l'hôpital et l'hôpital psychiatrique. Je vous propose qu'on écoute ça.
L'hôpital de Héloïse, Aman, Luca et Yasmine.
On est le 30 novembre 2019. Quatre amis d'enfance, Luca,
hey.
Aman,
yo.
Héloïse,
hello.
Et Yasmine,
salut.
Se retrouvent un soir à 18h dans une bibliothèque. C'est une bibliothèque municipale qui vient d'être construite. C'est un jour de brume, c'est une grande bibliothèque. Autour d'une table, les quatre amis parlent de tout et de rien.
Un homme sous dans le métro m'a dit que dans l'ancien hôpital psychiatrique, il y a des esprits qui viennent voir les patients avant leur dernière nuit.
Ah oui, même que les esprits hantent cet hôpital et crient la nuit.
Mais vous savez d'où viennent tous ces esprits? Mon arrière-grand-tante m'a raconté que dans le vieil hôpital psychiatrique, des enfants ont subi des expériences.
Et c'était quoi comme expérience?
Des scientifiques et des médecins qui testait des formules expérimentales sur les patients. C'est ce que m'a dit mon arrière-grand-tante.
Bah moi, l'homme sous du métro m'a précisé que c'était des scientifiques nazis qui faisaient des tests sur les patients pour essayer de créer une nouvelle sorte de créature permettant de gagner la guerre.
Il paraît que ces mêmes patients sont bloqués dans cet endroit depuis qu'une expérience a mal tourné.
J'ai un ami qui a visité cet hôpital. Il m'a dit que la nature s'y est installée, qu'il y a beaucoup de moisissures sur les murs. À part ça, mon ami n'a rien vu de spécial dans l'hôpital.
Mon arrière-grand-tante m'a dit qu'elle jouait là-bas quand elle était plus jeune. Mais elle a arrêté d'y aller depuis qu'elle a entendu des hurlements et des bruits de pas.
C'était peut-être les bruits de la forêt qu'elle a entendu. De toute façon, c'est un vieil homme sous qui me l'a raconté. Et en plus, c'est une vieille histoire, hein? Arrêtons de nous faire peur, ok? Parce que...
L'hôpital psychiatrique de Marem Nolan Rita.
Imaginez le soir du nouvel an.
Ta-da-da.
Imaginez deux étudiants abandonnés par leurs amis et leur famille, miskines.
Ta-da-da.
Imaginez qu'ils arrivent au bar Doudouna pour prendre un verre.
Ta-da-da.
Le Doudouna est un vieux bar très sombre et sinistre. Dans ce bar, on trouve un cocktail spécial composé de...
rhum, de Jack Daniels et de fruits de la passion.
Imaginez qu'il se bourre la gueule.
Ta-da!
Tu connais l'histoire de la maison hantée?
Bah non.
Tu es fada ou quoi? Elle est hyper connue cette histoire.
Oui, trop connue. Moi je connais une bien moins connue.
Oui, quelle histoire?
Toi, tu es là pour servir, pas pour raconter des histoires.
Ça se passe en 1949, dans un hôpital psychiatrique. Non, en 1849.
Il sait pas raconter, c'est l'histoire d'une maison hantée.
Imaginez un hôpital psychiatrique.
Une maison hantée.
Sombre, sale et effrayant. Un hôpital où l'on pratique des expériences interdites sur des patients fous. Imaginez.
C'était l'hôpital et l'hôpital psychiatrique. Caro, pendant qu'on écoutait les extraits, vous faisiez une remarque qui était, je trouve, intéressante sur le fond de l'histoire et finalement ce que ça génère en termes de réaction.
Oui, c'est-à-dire que ces textes, ils ont été écrits par 40 élèves. Et ils sont lus, interprétés par 8 élèves. Et en fait, quand on a eu les textes, on s'est dit que c'était des textes un peu sinistres, un peu sordides. Et quand on est passé à la mise en voix, ce qui était très sympa à voir, c'est qu'ils se sont amusés et que le rire a jailli, le sourire a jailli. Et on le sent, je trouve, dans leurs interprétations, qu'ils le font avec les yeux qui pétillent et le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Et puis nous-mêmes, quand nous les écoutons, nous avons le sourire aux lèvres. Enfin, c'est vraiment ça qui fait... Parce que les auditeurs ne se rendent pas compte, nous découvrons une bonne partie des textes là en plateau. Ça génère des réactions chez nous aussi, hein, parce que ouais. Nous sommes auditeurs. Hein, voilà. Et c'est plutôt le sourire que ça génère chez nous. Ouais. Voilà, c'est...
Je crois qu'on pourrait les nommer, ce serait sympa. Hein, ces interprètes.
D'accord, on n'attend pas le générique de fin, on le fait au milieu. Vas-y,
Caro. Je sais pas.
Non, bah, on le fait quand on veut. On le fait quand on veut. Non, on le fait quand on veut.
Non, je vais les nommer parce qu'ils ont sacrément bien travaillé et ils se sont super investis. Il y avait Wassim, Aman, Ibrahim, Jérémia, Isabelle, Ilona, Luca et Elena.
Oui, et on les applaudit d'ailleurs déjà.
Déjà.
Eh bien, je propose que nous écoutions justement un autre de ces textes issus de l'écriture de ces 40 élèves et mis en voix. Soirée pyjama.
Parfait. Soirée pyjama de Inès, Chanel, Lola, Nastrina, Fatou et Jade.
Oh, ça me rappelle une histoire.
Laquelle?
On m'a dit qu'il y avait autrefois un hôpital psychiatrique à la place du collège. On raconte qu'on y torturait les patients.
So what? On y enterrait les patients vivants?
Non, ils n'étaient pas tous enterrés. Certains étaient torturés au poison ou au gaz.
Tu crois? On devrait réveiller Chanel. Elle aura peut-être plus d'infos.
Merde, on la réveille comment?
On lui lance un ballon en mousse.
Qui a fait ça?
Moi.
On parlait de l'ancien hôpital psychiatrique de notre ville. Et on a besoin de ta lumière. On sait que tu connais le chef des archives de la ville.
Autrefois, notre ville était moins construite. On avait bâti l'hôpital à l'extérieur de la ville sur les hauteurs. On y envoyait des gens qui avaient des problèmes mentaux et les personnes dont on souhaitait se débarrasser. Tout le monde était mélangé. Hommes et femmes, jeunes et vieux, malades, mentaux et simples personnes enfermées. La nuit, on entendait des cris et on voyait des lumières s'éteindre et s'allumer toutes seules.
Dit comme ça, personne n'oserait s'approcher.
So, comment on a su ce qui s'est vraiment passé?
Une fille de notre âge est morte à cause des médicaments qu'on l'a obligée à avaler. Les médecins ont dissimulé sa mort dans la cour du bâtiment. Elle a été oubliée de tous. Jusqu'à la construction du collège.
Ah oui, je me souviens, il avait trouvé des tombes en creusant les fondations.
On raconte que l'esprit de la jeune fille est resté prisonnier du site et que depuis que le collège a été construit, elle apparaît habillée de blanc.
Je connais quelqu'un qui l'a aperçue. Elle avait l'air perdue et désespérée. On m'a dit que quand on la voit dans le collège, elle nous hante pendant notre sommeil et essaye de communiquer. On s'est aperçu qu'elle communiquait avec plusieurs élèves, qu'elle leur adressait tous les mêmes signes. On a fini par découvrir qu'elle essayait probablement de communiquer avec le langage des signes et on a fait des recherches.
On a fini par comprendre son message. Elle voulait dénoncer les tortures qu'on leur avait fait subir et faire en sorte que personne ne les oublie.
Voilà, là, c'est vraiment l'expression de ce que Caro nous disait il y a quelques secondes. Effectivement, des histoires qui sont faites pour faire peur, en fait. Hein, sont des légendes urbaines qui font peur. Et finalement, qu'on écoute avec un sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'on sent tout ce cœur qu'ils y mettent, finalement, et à la lecture, et à l'interprétation. Et voilà. Ouais, ça interprète, d'ailleurs. Ça ne lit pas, ça interprète carrément. Quoi. Voilà. Je vous propose qu'on écoute les deux dernières légendes avant de faire un pied à tout ça et de revenir sur ce que nous venons d'écouter. Donc nous avions l'immeuble Anjou et le fantôme meurtrier. L'immeuble Anjou d'ailleurs, qui est un immeuble de Netreville, qui est tombé, ou qui va tomber, je ne sais plus, en tout cas il est déjà tombé celui-là. Ouais, ouais. Oui. Donc voilà, l'immeuble, bah c'est pour ça d'ailleurs sûrement qu'il y a un fantôme meurtrier qui reste dans les décombres, allez savoir. Et le mystère du château d'eau. Oui.
L'immeuble Anjou et le fantôme meurtrier de Anis, Candice, Lola, Eva.
Lors de mon déménagement, on m'a raconté que l'immeuble où j'allais vivre était considéré comme dangereux. Tous les 31, il fallait fuir. Durant 24 heures, rester dans cet appartement provoque la mort. Je me suis interrogée, pourquoi tous mes voisins me racontent cela? Je décide alors d'aller taper chez un de mes voisins pour lui demander plus d'informations sur l'immeuble et ses maudits 31. Mon voisin, Jean-Luc,
qui a plus ou moins 50 ans, les cheveux longs et qui joue de la lyre.
Eh oui, de la lyre.
Écoute petite, une femme a été assassinée par son mari, légitime défense. Cela s'est passé dans l'immeuble à côté du nôtre. Cette femme, dit-on, se venge tous les 31 en tuant des innocents. Elle est morte, un 31. La seule solution pour échapper à son désir de meurtre est de répondre à cette fameuse question.
Où est mon amour de mari? Où est mon amour de mari? Où est mon amour de mari? Où est mon amour de mari?
Si vous ne savez répondre à cette question, de rage, elle vous griffera jusqu'à la mort.
Je n'y crois pas à cette légende. Malgré tout, le 30 janvier, je commence à douter. J'angoisse, je ne me sens pas bien. J'ai la boule au ventre, mais je reste dans mon appartement. Vers 23h, je n'y tiens plus. Je vais voir mon voisin qui a préparé ses affaires pour aller chez un ami. Je remarque que mon voisin a une cicatrice sur la tempe, une énorme griffe. Je lui demande, d'où vient cette cicatrice?
Une longue histoire, petite.
Me dit-il, j'ai tout mon temps?
Non, il y a urgence. Suivez-moi, je vous raconterai tout dans la voiture.
Dans sa Peugeot, après 15 minutes de route, je vois un flash. La voiture se retourne. Le conducteur, mon voisin, meurt sur le coup. Et moi, je ne peux vous dire si cette légende est vraie. Car après ce drame, j'ai déménagé. Je n'ai donc jamais vécu de 31 dans cet immeuble.
Le mystère du château d'eau de Mathis, Thibault, Wissem et Ethan.
J'ai entendu dire que le château d'eau de Netreville fuit tout seul parce qu'il est trop vieux. L'eau a inondé les alentours, les habitations, les végétations et l'école du Bois Bouilly. Les employés qui cherchent à réparer les fuites sont traumatisés par les dégâts. Le château a été construit en 1823.
1823 ?
En 1823, les habitants de Netreville mouraient de soif. C'est ce qu'on raconte. Durant 200 ans, peu à peu, sa construction s'est fragilisée et a commencé à fuir. Il est impossible de le réparer.
Impossible !
Car les fuites ont fini par former un marécage qui engloutit les habitants qui tentent de se rapprocher du château d'eau. Et depuis quelque temps, les habitants ressentent comme des séismes. La ville d'Évreux a peur que le château finisse par exploser.
Exploser ?
Le maire fait au mieux pour mettre en sécurité les habitants. Il a aidé de faire évacuer le centre-ville. D'après la légende, des serpents d'eau très venimeux se sont introduits dans les égouts pour atteindre le château et s'y installer. Leur présence repousse les passants. Mais selon nous, les dégradations du bâtiment ne sont pas dues à sa vieillesse ni à sa vétusté, mais sont provoquées par des hommes malveillants qui n'aiment pas Évreux.
Qui n'aime pas Évreux.
Donc voilà, c'était l'intégralité des légendes écrites, des légendes urbaines, écrites par les élèves du collège Henri Dunant et mises en voix par 8 élèves de 5e et de 4e, Wassine, Aman, Ibrahim, Jérémia, Isabelle, Ilona, Luca et Elena, voilà, qui ont mis en voix les histoires des 40 autres élèves. Alors là, on a eu beaucoup de légendes urbaines, il y a eu beaucoup de choses. Pour conclure nos échanges, juste avant de retrouver Joseph sur un freestyle final, comme on disait, vous avez accompagné les élèves, ils ont produit de belles choses. Voilà, dans l'idée de pouvoir aussi proposer, vous, les artistes, quelque chose dans cette émission. Pour les élèves qui nous écoutent, c'est aussi se dire, voilà, les personnes qui m'ont accompagné sont aussi auteurs, sont aussi interprètes, proposent aussi leur art auprès des autres. Une petite anecdote, un petit quelque chose qui resterait sur cette première année d'aventure du projet Légendes Urbaines, un élément fort, quelque chose qui aurait retenu particulièrement votre attention, sans que ce soit forcément un élément central du projet, hein, mais ou peut-être un petit quelque chose. Vous savez, des fois la vie est faite de plein de petits quelque chose qui marque. Est-ce qu'il y aurait une anecdote, un quelque chose, ou une difficulté qui se serait transformée en une bonne rigolade? Je vois chacun un peu les yeux en recherche, ou juste un petit moment particulier que vous avez envie de partager avec nous, hein. C'est pas forcément l'anecdote centrale.
En tout cas,
Laetitia,
avec les collégiens, donc on a réussi en 4 heures à faire tous ces enregistrements, plus ou moins 4 heures, hein, en 4 heures. Et on a énormément, il y a eu un moment donné, il y a une des légendes où on a pris peut-être 20 minutes parce que les étudiants n'arrêtaient pas de rire, en fait, et c'était impossible, alors que les autres ont été très très vite et très efficaces, et c'était un très beau moment, c'était un moment très joyeux, voilà.
Pierre, un moment ou quelque chose en particulier que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs?
Oh, y en a plein, ça me prend un peu au dépourvu, il y en a plein. En tout cas, ce que j'ai peut-être qui me reste, et ça je me tourne à nouveau vers les enfants, mais le souvenir que quand on a fait les enregistrements, ils ont tous su s'accompagner les uns les autres, ils ont tous été très attentifs à ce que même celles ou ceux qui avaient parfois le plus de difficultés, qui étaient le moins à l'aise, trouvent une place. En tout cas, ils ont entendu cette nécessité-là que je posais, et ils y ont répondu avec une grande simplicité. Donc je crois que c'est ça qui me reste, et qu'ils ont su, avec beaucoup d'engagement, tu parlais tout à l'heure effectivement du travail, Joseph, enfin comment la rigueur est arrivée, et c'est vrai que chapeau à eux, parce que vous pouvez être fiers, les enfants de Netreville.
Joseph,
et moi du coup c'est un peu triché parce que je l'ai déjà évoqué, c'est la création de ce tube,
le tube, le fameux tube
qui est arrivé, mais si je devais en raconter une autre, du coup ce serait peut-être un petit clin d'œil à Kimberley, je sais pas si elle m'entend, je pense pas, mais qui a une voix de fantôme relativement drôle et efficace, voilà.
Très bien.
Ça a fait beaucoup rire en tout cas quand on a enregistré ça.
Eh bien, merci beaucoup. J'avais dit qu'on allait terminer d'ailleurs avec la proposition de Joseph. Alors, en quelques mots, Joseph, vous êtes musicien, auteur et interprète aussi.
Oui, c'est ça, musicien et auteur et chanteur et rappeur en fait. Du coup, et pour le coup, j'ai un projet de rap où je suis accompagné d'autres musiciens. Et c'est un extrait que je vous propose là d'un EP qui est sorti il y a peu. Voilà. Le projet s'appelle MC Agora et le morceau s'appelle Overside. Et je suis pas sûr d'entendre ma voix dans le casque pour l'instant.
Vous ne vous entendez pas ?
Non.
Ah bah c'est que c'est peut-être pas bien marché. Alors où est-il, Vanchon ? On va résoudre cette question technique et vous allez me dire quand est-ce que vous m'entendez ?
Là
vous m'entendez.
Hein. Oui, je vous entends. C'est bien mieux. Voilà. Voilà. Et je m'entends aussi. C'est super.
Et c'est parfait. Et bien nous quittons là-dessus. Merci beaucoup à vous, Laetitia, Janoun. Merci beaucoup, Pierre Lamandé. Merci beaucoup, Joseph Baudet, également, d'avoir accompagné et d'avoir passé ces moments de valorisation au micro.
Oui, Pierre. Deux secondes, dire que à tous les gens qui nous écoutent, que l'année prochaine, on continue ces projets-là, ces écritures, et qu'on sera très heureux de vous retrouver, les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, puisqu'on aimerait vraiment travailler même avec les seniors, comme on dit. Mais enfin, voilà, qu'on puisse étendre toutes ces légendes à toutes et tous dans le quartier de Netreville.
Très bien, bah merci beaucoup à vous. Ce projet, effectivement, c'était la phase 1 que nous valorisions aujourd'hui. Il y aura au moins la phase 2, si ce n'est la phase 3, sur les moments qui viennent. Projet coporté par l'Éducation nationale, coporté par le Tangram, et sur lequel Laetitia et Pierre, on vous retrouve l'année prochaine également. On vous retrouve aussi, c'est voilà, on vous retrouve aussi dessus, Joseph, l'année prochaine.
Bien sûr.
Très bien. Eh bien.
Gang.
Eh bien, on termine là-dessus avec justement Joseph qui a fait les mises en son avec les élèves, et eh ben qui va nous proposer ce qu'on appelle un freestyle, non, dans
un
le milieu.
Un freestyle, c'est exactement ça.
Exactement. Eh bien, on se quitte là-dessus. Merci à vous. Merci. Hey.
Je rentends ma voix. Ok, ok. Yay. Hey, I make my own money, just like I did before. Bread and honey breakfast, never had diamonds on my necklace. 26, less young and less reckless, never had big names on the guest list. Fuck what you were told, my flow is infectious. Check this, my flow's like dynamite on an Eastwood Western. At war, I grab my MRC, my Smith and Wesson. MCs all getting cocky, I think they need a lesson. If God put you here to lesson, it must be a blessing. Now stop messing around, stop following the line, stop pretending to shine. Be humble this one time, or maybe now it's too damn easy. People now just want it cheesy, they say I rap you with a tasty. Man, I'm too lazy to fake me and I could ask myself, are we gonna be okay? You and I, we family, and I got love to spray. We're all going to die someday, and there is no replay. Shit, shit, I'll see you on the other side. Hey, yeah, get it. Yeah, see you on the other side. Hey, okay, let's go. Yeah, yeah. I'll see you on the other side. Hey, 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 let's go. I'll see you on the other side. Hey, 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 yeah. Yeah. Principe actif, ça va ou pas?
I feel like I'm broke inside and no one can fix it. We all are, and that's so sublime. But you'd rather take a war ticket like you and I, we're family. But some of you wanna handle me. You take your televised revolution for reality to fall into insanity. Oh, tragedy. Irony is your strategy. I see all this slavery. I see all this technology. I don't understand your psychology. Is it drama or comedy? Kids these days are the remedy. But too many people are poisoning like fuck. You're in a hurry, no doubt. You always tend to worry. But with all that money on your mind, your vision is kinda blurry. Writing these bars on a studio desk, singing them through a crowd in a fest. Some green in a pocket of a vest. I don't wanna rest, cause life is a test. And I wanna score like I never did before. I ain't playing games anymore. Sick of this shit, but I don't need no cure. I got my own clicks, no toyos behind my own doors. I got my own fears, my own walls, and they probably got yours. Yeah, 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 I'll see you on the other side. Let's go. Ay, ay. I'll see you on the other side. Get it, get it, okay. I'll see you on the other side. Hey, hey. I'll see you on the other side. Hey, hey. Yeah, yeah. Other side. On the other side, ay, on the other side, I'll see you on the other side.
Bravo!